Salut! Vous écoutez Les Sexes Maîtresses, Audrey, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme.
Que vous soyez calé ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexo, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses.
De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu.
Bonne écoute!
Salut! Aujourd'hui, on a décidé d'aborder un sujet croustillant qui suscite beaucoup la curiosité chez bien des personnes, les configurations relationnelles. On aimerait démystifier les relations qui sont différentes du modèle traditionnel du couple, hétérosexuel, monogame, classique si on veut. On va parler donc de polyamour, de couple ouvert, d'aventure d'un soir, d'amis avec bénéfices et toute autre option possible dans les constellations des configurations relationnelles. C'est-à-dire toutes les autres façons d'entrer en relation amoureuse ou sexuelle avec un ou plusieurs partenaires sans nécessairement utiliser l'étiquette de couple. L'idée aujourd'hui, c'est de nuancer le discours selon lequel les relations intimes seraient, entre guillemets, là, en perte de repère ou que l'amour est en crise. On va démystifier puis dédramatiser ça.
Ta-ta-ta-ta!
Pam, 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 pam! Gros! Ça va être comme un peu un 101 de configuration relationnelle. C'est quoi couple ouvert? C'est quoi polyamour? C'est quoi la non-monogamie éthique? C'est quoi la différence entre les trois? Pour avoir un petit peu plus de nuances dans nos discours puis dans nos réflexions.
Le but, c'est pas de dire c'est quoi les meilleurs, puis c'est quoi qui est plus moral ou pas. C'est vraiment juste de dire que ben il y en a pour tous les goûts, finalement.
Exact. Sans plus tarder, il y a une théorie, je pense, qui va nous aider à concevoir ce sur quoi on peut s'appuyer dans une relation. C'est pas juste genre, je me mets en couple, puis là, je suis en couple avec la personne. Non, non. Il y a des concepts derrière ça. Il y a des gens qui ont théorisé le truc, bien entendu. Pour construire l'épisode d'aujourd'hui, on s'est fié beaucoup sur les travaux de Carl Rodrigue. C'est un chercheur en sexologie qui travaille sur les configurations relationnelles. Fait qu'on va vous en dire plus là-dessus aujourd'hui. Ça va être beaucoup des définitions, mais des facteurs explicatifs.
Je pense qu'avant de se lancer dans les configurations puis quel type de relation existe, on peut peut-être faire le mini historique de pourquoi on est rendu même à parler de ça. T'sais, je pense que, mettons, on passe juste dans le temps de nos parents, ben c'était le couple monogame, puis les autres autour étaient un petit peu bizarres si tu faisais pas ça, mais on n'avait pas de catégorie dessus, on pensait pas que c'était comme correct, en fait, qu'il y a d'autres catégories. Donc je pense que si on se fait un petit cours d'histoire pour commencer, ça va être le fun.
Yeah, Sarah!
Là, on a juste réfléchi à pourquoi on dit que l'amour est en manque de repères, pourquoi les gens ils savent plus être en couple, ce genre de questions. Premièrement, on peut penser à la libéralisation des valeurs. Avec l'accès au divorce, avec la libération sexuelle, c'est comme devenu un sujet là de « avons-nous réellement besoin d'être en couple monogame? Comme est-ce nécessaire? » Je pense que ça a commencé là. C'est comme là qu'on a réalisé que le but dans la vie, c'est pas nécessairement le mariage. On peut penser qu'avant, tu sais, une union conjugale, c'était pour des intérêts politiques, mettons, chez les riches. Ça peut être aussi des intérêts économiques, c'est-à-dire quand une dot ou des trucs comme ça. Tandis que là, maintenant, on va peut-être plus penser aussi à notre bien-être, tu sais. Une relation, faut que ça m'apporte autre chose que un pouvoir politique ou de l'argent, là. Quoique c'est possible encore à ce jour, mais il y a un nouveau facteur qui rentre en compte, le bien-être. On peut aussi penser à l'accès des femmes au marché du travail. Depuis ce temps-là, on a peut-être d'autres priorités dans la vie que cuisiner des bons repas puis faire le ménage en attendant nos maris qui reviennent du travail. Parce que nous-mêmes, on est sur le marché du travail. Fait qu'on voit d'autres gens, on voit d'autres façons de faire les choses aussi. Autre facteur auquel j'ai pensé, la contraception. Encore une fois, ça va avec la libération sexuelle. On n'a plus besoin d'être avec la même personne pour le reste de nos jours parce qu'il nous a enfantés. Ça aide. Tout ce qui est droit sexuel, comme on a de plus en plus de droits sexuels, oui, notre podcast sert à chialer qu'on a moins de droits.
Qu'on n'a pas encore toujours pas les droits!
Qu'on n'est pas tout à fait égal et équitable encore à ce propos, mais quand même, on va le donner à toutes les femmes féministes avant nous qui ont milité pour nos droits sexuels, qui font en sorte qu'aujourd'hui, on est capable de faire un épisode sur les configurations relationnelles.
Oui, différentes. Que ça soit valide, puis que ça soit reconnu, puis que ça commence à être dans les recherches scientifiques.
Exact. On peut aussi penser, ça revient, mais l'individualisme.
Puis, oui, mais ben, je le mets pas. Ça sonne beaucoup comme ça, ce que tu nommes.
Ouais, c'est ça. Ouais, j'étais comme, ouais. Ben, le résumé de ça, c'est pas mal l'individualisme, qui est pas nécessairement négatif, là, tu sais. Ça non. peut être que t'as d'autres objectifs de vie, tu veux te réaliser toi-même, puis ça passe peut-être pas nécessairement par le fait d'être en couple. Ça donne aussi l'importance d'avoir peut-être, comme on parlait tantôt, le bien-être, ben le droit au plaisir, le droit au bonheur. Mm-hmm. Ben, pour certains, maintenant, la définition du bonheur, c'est pas d'être en couple monogame. Enfin, ça, j'ai trouvé ça quelque part, mais c'était la diversification des formes d'engagement qui répondent à des besoins différents.
Exact. Ben, je pense que ça rentre dans tout ce qui est individualisation. T'sais, si en tant qu'individu, tu dis « Bon, parfait, moi, le couple monogame conjugal, ça ne répond pas à mes besoins, ouais. ça ne répond pas à mon style de vie, ça ne répond pas à
mes ambitions. »
« I want more » ou « I want different », en fait, je devrais dire. Parce que tu sais, c'est pas nécessairement que les autres configurations relationnelles sont plus cool que la monogamie. T'sais, moi, je la trouve très cool, la monogamie.
Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, le but, c'est pas de faire une hiérarchie de qu'est-ce qui est plus nice que d'autres. C'est vraiment de parler des diverses formes de configuration relationnelle. Puis, tu sais, quand on disait, bon, là, on a parlé des facteurs explicatifs, puis tout ça, puis souvent, bon, notre première réaction, c'est comme, ben, dans le temps, le monde, il travaillait sur leur relation plutôt que tout abandonner. C'est vrai que... Écoute, dans le temps, si tu tombais sur une personne que finalement, c'est de la crise de merde, ben c'était de la crise de merde toute ta vie.
Ouais,
t'sais. On s'entend que, oui, il y a peut-être des inconvénients qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment une crise de l'amour? Mais non, je pense que c'est juste la progression naturelle de ce qui se fait.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, Sarah, tu nommais les droits sexuels.
Ouais.
Avoir le droit de dire non à une relation sexuelle que je veux pas, que je sois mariée ou pas, ça, c'est un gros step. Puis ça fait aussi en sorte que, effectivement, tu sais, si je suis dans une relation qui me fait violence, ben, je peux quitter, tu sais, comme, bon, on s'entend, il y a plein de facteurs, mais je peux quitter et je peux dire non et je peux choisir que je veux plus jamais revivre ça. Puis, c'est intéressant aussi que t'as dit qu'on travaillerait peut-être pas sur le couple autant, puis comme on fait juste lâcher, mais en même temps, je crois que ça fait en sorte que les gens peut-être travaillent encore plus à être des bons, bonnes partenaires, tu sais, parce que...
Mais oui, t'es pas pris pour acquis.
Exact. Il y a rien qui m'empêche de te quitter, là.
Ouais. Tu sais, oui, on peut bien être nostalgique de « Ah, tu sais, l'amour avec un grand A », de genre... The one and only que tu rencontres au secondaire, puis que tu fais des bébés, puis que tu vieillis. T'sais, c'est une belle image, mais c'est pas la seule image. Puis c'est pas la seule image qui amène du bonheur, au contraire. Ça peut ressembler à plein de façons pour plein de gens. Fait que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui.
Le mythe de the one, là.
Vas-y, un petit rant.
Non, je peux pas.
Ah. D'accord.
Mais quand on va peut-être... Ben, parce que à la base, il y a plein de mythes qui sont sous-jacents à toutes ces croyances-là, parce que la raison pour laquelle la monogamie a été en place pendant si longtemps, oui, le fameux héritage judéo-chrétien, mais il y a plein de messages dans cet héritage-là, comme celui de « the one », ton « soulmate », ta tendre moitié, qui sont là, qui sous-tendent cette monogamie-là, qui des fois n'est pas saine et qui ne répond pas à un besoin que t'as, tu sais. Heureusement qu'il y a des gens qui ont réfléchi à déconstruire ces trucs-là, puis à peut-être faire autrement.
Ben justement, de vouloir faire autrement, je pense que c'était le but d'une des études de Carl Rodrigue dont on va discuter aujourd'hui sur les relations non conjugales. Donc ce qu'il voulait dire par là, c'est tous les types de relations qui vont être des relations sexuelles vécues par des partenaires qui ne se considèrent pas comme un couple. Là, on s'est dit, on va vous en parler, donner des petites définitions, puis encore une fois, on veut juste les normaliser. Comme lui, dans le fond, dans son rapport, c'était de montrer qu'il existe, puis que c'est pas si rare que ça.
Oui, non.
Puis qu'elles sont valables aussi. En tout cas, ça, c'est mon avis personnel, là, mais souvent, on va se dire, genre, ah, mais tu sais, je suis pas en couple avec, fait que c'est pas vraiment une relation. Hey, toutes les gens avec qui tu parles dans la vie, genre, que tu croises, qui sont sur ton chemin, t'as une relation avec eux. Comme même si c'est un fuck friend que t'as jamais eu de discussion, mettons, profonde avec, t'es en relation avec.
C'est ça. C'est juste un type de relation non conjugale. Puis on a tellement l'habitude de seulement étiqueter les relations conjugales, c'est-à-dire les relations de couple, et encore les relations de couple monogames, que c'est juste jamais rentré dans l'inconscient collectif que c'était legit comme relation. Mais ça en est une pour vrai. Newsflash!
C'est en interaction avec un autre être humain. Donc déjà là, c'est une relation.
Ouais.
C'est ça qu'on veut dire.
Puis l'espèce de danger de pas mettre de...
De catégoriser.
Ouais, c'est ça. Puis de pas considérer que ces relations-là sont des relations. Tu vas pas mettre tes limites, tu vas pas communiquer tes besoins parce que, ben, c'est pas mon chum. Genre, ben, c'est pas ma blonde. Ouais, ouais. J'ai pas le droit de demander telle affaire parce que dans le fond, on n'est pas engagés ensemble. Mm-hmm. Ou, OK, mais t'es quand même en relation avec cette personne-là. Cette personne-là a accès à une partie de toi ou une partie de ta vie ou de ton énergie, de ton temps. Fait que t'as le droit d'exiger certaines choses, même si c'est pas ton chum ou ta blonde.
Ouais, ça, c'est bon, point.
T'sais?
Ouais. Là, les êtres humains, on adore les étiquettes. Puis le fait que là, les cinq qu'on va nommer là, ben ça peut peut-être être plus facile de nommer dans une discussion, justement avec ta partenaire, pour faire comme... Ben justement, est-ce qu'on est juste des amis avec bénéfice?
Mm-hmm.
Puis juste de le nommer, ben après c'est peut-être comme, est-ce que ça répond à tes besoins? Ce type de relation, oui, non, parfait, ben au moins on est capable de nommer c'est quoi. C'est sûr que là on en nomme cinq, mais il y en a peut-être beaucoup d'autres.
Ouais.
Puis vous êtes pas obligé de vous nommer dans des catégories.
Non plus.
Pas obligé d'être dans une petite boîte. C'est juste que je pense que ça peut faciliter les choses aujourd'hui de nommer quelques catégories entre grandes guillemets.
Ne serait-ce que pour valider votre existence.
Ouais, c'est ça.
Je pense que tout le monde en a vécu plus qu'il pense de relations.
Oui.
Ouais.
Fait que si on commence avec la première que Carl a trouvée, c'était la relation sexuelle à occurrence unique.
Oh!
C'est ça, ça va être au cours de laquelle les partenaires vont avoir un seul rapport sexuel, ben, ou plusieurs dans la même soirée, ouais. Là. Mais dans le sens qu'ils vont se voir juste une fois. Donc ça, on peut appeler ça une aventure d'un soir. Je pense que plusieurs personnes peuvent attester de ce type de relation dans leur existence.
Les caractéristiques qu'il avait nommées, là, en gros, pour catégoriser, ben, c'est que, ben, des fois, c'est des connaissances, des amis, ou ça peut être des étrangers.
Ouais.
Il y a un seul contact sexuel, comme tu as dit, sans avoir nécessairement l'intention de ravoir des contacts sexuels dans le futur.
Ah,
c'est ça, un
ouais.
One night.
Ouais, ouais.
Il y a une absence générale d'entente d'exclusivité sexuelle. C'est pas comme, OK, toi puis moi, on est exclusifs. C'est ce soir. Ouais. Puis, il n'y a pas vraiment de dévoilement de soi. Ça, je trouvais ça intéressant de le soulever.
Oui, c'est intéressant.
C'est comme, c'est un one night.
Tu n'as pas besoin de savoir c'est quoi le nom de mes
frères. C'est quoi ton nom?
Tu n'as pas besoin de savoir c'est quoi mon nom. Appelle-moi Sugar.
Le deuxième type de relation qui a été trouvé, c'est un partenariat centré sur la sexualité. Fait que là, quand j'ai essayé de comprendre la différence avec le premier, je me suis dit, c'est comme une aventure, mais de plus d'un soir.
Mm-hmm.
Ah oui, ok.
C'est comme les rapports sont en majorité de nature sexuelle.
Oui.
C'est un booty call?
Fait que booty call, ben oui, ouais. Ça pourrait être ça. C'est une aventure d'un soir qui a quand même été le fun. Ouais, fait que finalement, ça. Tu rappelles la personne, peut-être.
Oh, ouais. Oui, je comprends. C'est comme un plan cul, mais sans que ce soit ton ami.
Régulier.
Comme une rotation.
Exact. Mais...
Celle avec conviction. Je sais pas si vous avez deviné jusqu'à maintenant, sûrement qu'on a rentré à un moment donné dans nos vies dans une de ces catégories-là.
Ouais. Dans le fond, selon les caractéristiques de sa catégorisation, Carl dit que ça peut être des connaissances, des amis ou des partenaires affectifs. Et souvent, il y a des activités sexuelles régulières. Les activités sociales sont rares. On va pas en date, là.
Non.
Viens chez nous, je t'attends, c'est ça qu'on fait.
You up à 2h du matin, ouais.
Exact.
Let's go.
Ils se rencontrent souvent avec le but principal d'avoir des activités sexuelles. Il y a une absence d'entente d'exclusivité sexuelle ou d'entente d'exclusivité sexuelle implicite. Souvent, l'entente d'exclusivité sexuelle suppose qu'il est permis d'avoir d'autres partenaires sexuels.
Ah, c'est ça.
Ouais.
Puis, ça aussi, il y a un dévoilement de soi qui est bas.
Ah ouais.
Couche ensemble, tu restes pas à déjeuner, tu calises ton camp.
Exact.
Oh, c'est de même, je le sens.
C'est intéressant que Carl soulève le dévoilement de soi comme une caractéristique. Dévoilement de soi bas. C'est intéressant. Je trouve que c'est un bon critère. À quel point tu te dévoiles.
Le troisième type, c'était le partenariat centré sur l'amitié ou va dominer des relations amicales, mais aussi sexuelles. Donc là, je pense qu'on parlerait des amis avec bénéfices.
Fait que c'est ton ami.
C'est ton ami, pis t'es comment? Ce serait le fun que petite partie de sexe ce soir?
Fait que fuck friend.
Moi, c'est ici que je le mettrais.
Dans le fond, dans ces caractéristiques, c'est des amis qui étaient déjà amis avant d'avoir leur premier contact sexuel.
Ah, c'est ça.
Il y a des activités sexuelles régulières, mais il y a aussi des activités sociales régulières. Oh, on s'en va au bowling en petite gang, on va peut-être finir dans mon lit.
Exact.
Mm. C'est ça. Puis, ils se rencontrent rarement avec le but principal d'avoir des activités sexuelles.
Ah, OK, rarement. Ah,
okay. Ouais, c'est ça. Dans le fond, dans sa catégorisation, c'est que, ben, au départ, ils étaient des amis, mais finalement, ça finit avec des bénéfices, avec des relations sexuelles. Il y a une absence générale d'entente d'exclusivité sexuelle, puis il y a un dévoilement de soi bas aussi, encore une fois. Mais ça, c'est ça, tu sais, vous irez lire sa recherche, c'est la catégorisation qui en fait avec l'échantillon de personnes qui avaient fait, là, tu sais. Oui, ça, ouais. C'est pas général à la population, mais c'est intéressant de savoir que c'est sur ça qui s'est basé pour les catégoriser.
Oui, ouais. Mais c'est full intéressant.
Vraiment. Mm-hmm. Oui. La quatrième relation non conjugale, c'était les ex-partenaires qui continuent d'entretenir des contacts, mais qui ne se considèrent plus en couple. Donc, encore une fois, peut-être que vous avez vécu une relation non conjugale dans votre vie.
Surtout si, admettons, ton ex est dans ton cercle d'amis, puis là, tu le revois, puis là, les deux, vous êtes célibataires, mais vous trouvez pas, puis sur Tinder, puis ça marche pas, puis peut-être que même on a déjà, tu sais, vous avez un booty call sur le side, mais là, c'est ton ex, là, tu sais, tout le monde le fait au moins une fois dans ta vie, puis t'es comme, bon, that was a mistake.
Mais faut le faire pour le réaliser aussi.
Oui,
t'sais.
Quand même.
Ouais. C'est quand même important. Puis je pense que c'est normal d'aller vouloir recoucher avec un ex, là, tu sais.
Mais oui. Encore une fois, les caractéristiques, c'est qu'il y a des activités sexuelles régulières. Les activités sociales sont régulières aussi. Ils se rencontrent rarement avec le but principal d'avoir des activités sexuelles. C'est comme,
non,
oups!
Oui,
on s'est retrouvés là.
Non!
Il y a une entente d'exclusivité sexuelle souvent implicite.
Ah, ça c'est intéressant.
Oh! Ouais. Parfois explicite. Est-ce que je suis la seule?
Oh, ça, c'est touché avec un ex, me semble.
C'est touché.
Ouais.
Puis souvent, l'entente d'exclusivité sexuelle suppose qu'il n'est pas permis d'avoir d'autres partenaires sexuels. Contrairement à tantôt pour...
Amis avec bénéfice.
Ouais.
Ce qui aurait de l'allure aussi, là, si t'es un peu encore attaché émotionnellement ou quelque chose.
Mm-hmm.
Peut-être que... Ouais, ça dépend peut-être de la fraîcheur, de la rupture.
Ouais, c'est vrai.
Ben, puis implicite dans le sens que, tu sais, si on vient de casser v'là une semaine, puis on finit par recoucher ensemble, je ne doute pas que comme t'as déjà rencontré quelqu'un, là, tu sais, ou que moi-même j'ai déjà rencontré quelqu'un.
Ben justement, le fait que c'est implicite, quand quelqu'un la rend explicite dans un ex-couple, ben c'est que ça devient malaisant, tu sais, parce que comme... Mettons, lui, il pensait que j'étais encore juste avec lui, mais t'es mon ex. Donc, non. Mais quand tu dis ça pendant que t'es dans une... un ébat sexuel, ça fait un peu des flamèches.
Ouais.
Fait que c'est ça, le fait que c'est implicite ou explicite, je suis comme, ah, ben, tu sais quoi, c'est peut-être mieux que ce soit implicite dans ce cas-là que explicite.
Je l'étudie aussi, il y a un dévoilement de soi élevé. Mm. Parce que tu le connais déjà.
Ça me surprend pas, ça.
C'est
ça. Ouais.
C'est comme réconfortant, probablement, tu sais.
Mais
pas comment va ta mère. Non, mais avant...
Là, tu fais référence à un pillow talk.
Ouais, pas pendant... Ben, en tout cas, j'espère pas pendant. C'est plus facile qu'avec une personne que t'as vue deux fois dans ta vie, genre, pis ta mère.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
On s'en fout un peu, tu l'as jamais rencontré. Là,
tu connais pas mon nom, tu connaîtras pas ma mère.
Enfin, la dernière catégorie était le partenariat intime et sexuel. Donc, les personnes vont s'adonner à des activités sexuelles et sociales de façon régulière, mais ne vont pas se considérer comme un couple.
Ouh!
Moi, la façon que j'ai réussi à le vulgariser, j'étais comme, c'est le nouveau terme à la mode, les situationships.
Oh.
On pourrait-tu le rentrer dans fréquentation aussi?
Je pense que oui, genre.
C'est vrai.
Ah! Ou c'est une fréquentation pendant un certain temps.
Ouais.
Parce que t'imagines que dans le futur...
On va se dire en couple.
Ouais. Mais si ça vient jamais, peut-être que là, tu tombes dans un situationship. Mais bref, bon, c'est des partenaires affectifs, c'est des amis. Mm. Ils ont des activités sexuelles régulières, des activités sociales régulières. Ils se rencontrent rarement avec le but principal d'avoir des activités sexuelles. Il y a une entente d'exclusivité sexuelle souvent explicite et parfois implicite.
OK, ouais.
Souvent, l'entente d'exclusivité suppose qu'il est permis d'avoir d'autres partenaires sexuels, mais il y a aussi un dévoilement de soi élevé.
C'est intéressant qu'on parle de situationship. Je pense que le terme est utilisé dans le cas où la fréquentation serait quelque chose que tu veux pas. C'est un peu péjoratif comme terme. Le situationship, c'est qu'il y a une des deux personnes qui est pas satisfaite, tu sais, qui a des besoins qui sont pas répondus.
Tu sais, dans la catégorisation qu'on vient de soulever, ça pourrait être un partenariat sexuel centré sur l'amitié ou, tu sais, ça.
Oui, ça pourrait
si
être.
Si les deux personnes sont sur la même longueur d'onde, c'est pas grave, c'est pas un situationship, mais j'ai l'impression que situationship, c'est qu'il y a une des deux personnes qui a des attentes, qui voudrait que ça se développe vers quelque chose qui ressemble à un couple ou une relation quelconque, puis que, justement, l'ambiguïté, puis le fait qu'il y a rien qui est nommé, ben c'est ça qui fait en sorte que c'est un situationship.
It's a situation.
Aye.
C'est drôle que tu dises ça, parce que j'ai essayé de traduire le mot situationship, puis ça me sort juste situation. Je suis genre, OK!
Moi, la définition, ça disait, ironiquement, une étiquette pour une relation qui n'en est pas une.
Oh!
Quelqu'un veut que ça soit une relation, puis l'autre personne veut pas que ça soit une relation. Fait que c'est juste le flou de...
Clairement, j'ai déjà été dans des situationships. On se dit qu'on veut rien de sérieux, mais il m'a fait un café ce matin. Ben non, ça veut rien dire.
Oui, c'est
ouais.
ça.
Ouais, ouais.
Non, c'est pas supposé de te poser autant de questions, là, tu sais, là.
Exact.
Tant qu'à parler de situationship, qui est une étiquette sur les une ou deux personnes qui aimeraient être en couple, mais qui le sont pas, sortons des relations non conjugales.
Oui.
Et allons dans les relations conjugales. Ce qu'on veut dire par ça, c'est que ça réfère à des partenaires qui vont se considérer comme un couple. On s'entend que les couples monogames sont encore majoritaires.
Monogame, c'est un partenaire.
Exact. La monogamie, ça implique l'unicité à vie du ou de la partenaire de couple. On peut parler de monogamie sérielle,
oui.
comme en série. Mmh. La monogamie en série, c'est le modèle qui est le plus adopté dans nos sociétés. C'est la succession de partenaires, mais qui sont non simultanés, là. Donc,
oui, oui, c'est
t'es ça. T'es en couple avec une personne, si vous vous laissez, t'es en relation avec une autre personne, etc. Puis ça repose sur l'exclusivité sexuelle et émotionnelle.
Mmh.
Puis le concept d'infidélité va être sous-jacent à tout ça, là. Genre, okay. pour s'entendre, c'est quoi une relation extra-conjugale,
oui,
qu'est-ce qui
ça.
Est
oui.
la fidélité ou pas.
Est-ce donc, que ça va jusqu'à dire que l'infidélité dans une relation monogame, tout le monde comprend dans le couple un peu c'est quoi l'infidélité? En tout cas, les gens pensent qu'ils savent.
C'est ça. Ça, ça fera un épisode à lui tout seul, je pense, là,
ouais.
sur le concept de fidélité, infidélité. Mmh. Et moi, je veux juste dire à tout le monde, vous devriez en parler à votre partenaire, parce que même si vous croyez que vous avez la même définition du mot fidélité, c'est pas le cas.
Ah
c'est
oui.
rarement le cas, en
100%.
Fait. C'est une belle petite discussion à avoir pour mettre les pendules à l'heure puis vous assurer que vous respectez les deux les mêmes règles, les mêmes
oui. limites.
Limites,
ouais.
Puis en fait, c'est bon que t'apportes ça parce que quand on va parler de monogamie, ça va être selon trois critères.
Mm.
Puis vous allez voir que les autres types de relations conjugales dont on va parler après la monogamie, ils auront pas les trois critères.
Ah, c'est
ils
bon.
Ils vont décider ensemble. Donc quand on parle des trois critères, c'est l'exclusivité sexuelle, l'exclusivité amoureuse, puis le rapport à la domesticité.
On c'est peut... intéressant, ça.
C'est ça. Fait que le troisième critère, on va le résumer à le fait de vivre ensemble ou non. Ça, c'est les trois critères qu'on va souvent voir là, dans les couples monogames, mais aussi dans les autres types de couples dont on va parler.
La domesticité. Okay.
C'est drôle que c'est un critère parce que j'ai l'impression que pas nécessairement même toutes les couples monogames qui vont vivre ensemble.
Effectivement.
Ouais.
Bon, par exemple, un autre type de couple qui n'est pas de la monogamie, on peut parler des couples ouverts.
Ah oui.
C'est un couple où les deux partenaires ont une entente, qu'on va appeler de monogamie élargie.
Ah!
Ils vont intégrer certaines relations extra-conjugales selon des règles propres à chaque couple. Tes règles de couple ouvert, c'est peut-être pas les mêmes que celui de tes voisins. Donc, encore une fois, c'est pas juste, tu sais, les préjugés ou les stéréotypes qu'on, les couples ouverts, ils vont juste se tromper, ils veulent juste aller coucher un peu à droite, à gauche. C'est pas nécessairement ça, tu sais. Les deux personnes dans le couple vont avoir mis des règles en place. Puis, les relations extra-conjugales, qui peuvent être autant sexuelles, amoureuses, elles vont souvent demeurer secondaires à la relation principale.
OK, c'est intéressant, ça. Moi, on dirait que le stéréotype que j'ai dans ma tête d'un couple ouvert, c'est comme, OK, il y a plus vraiment de flamme.
Bon.
On veut pas se séparer. Parce que juste, on a des enfants, on habite ensemble, on s'apprécie, on a un beau partenariat, on est des partenaires de vie, mais on veut rajouter du spark. On se donne le droit d'aller voir ailleurs, mais avec des règles explicites. Je sais pas, là.
Pas quelqu'un dans notre entourage.
C'est ça. Pas quelqu'un dans notre entourage, pas quelqu'un avec qui tu travailles, pas quelqu'un que moi je connais.
Ouais, ouais.
Ou genre, juste en voyage.
Ah,
ouais. Il y a des millions de configurations, là.
Mais il y a une entente entre les deux partenaires, c'est ça qui est important.
Un peu dans le même type, ça va être les couples échangistes.
Ah.
Ou le concept de l'échangisme.
Swingers.
Ouais! Swing. Ça va être une situation où deux partenaires vont entretenir des relations extra-conjugales ensemble et simultanément, généralement avec d'autres couples.
Mm-hmm.
Donc là, c'est pas être à part, c'est pas « fais pas ça devant moi », ça va être ensemble avec d'autres gens.
Ouais, c'est ça. Là, il y a comme un petit peu de voyeurisme qui rentre en ligne de compte. Peut-être l'un ou l'autre des partenaires, je sais pas, je dis ça de même. Sinon, avez-vous vu que l'ananas est comme le symbole de l'échange dans des cruises, là, des cruises de bateaux, là?
Wow.
Y a des gens qui mettent ça comme des petits ananas, comme en sambon que t'accroches sur ta porte.
Ah, je savais pas!
Oui, oui, c'est comme le signe que vous êtes échangiste, fait que là, tu peux...
Je trouve ça comme underground.
Oui.
Encore une fois, là, tu parles de croisière, on dirait, je vois juste des boomers avoir ce genre de relation-là, mais... no judgment, sérieux, comme ouais, si c'est ton
peu
truc.
Peu importe le groupe d'âge dans lequel tu
es. Ouais, non, puis pour de faire ce mythe par expérience personnelle, mais comme il était très jeune là, pour être dans des clubs échangistes, puis je lui ai demandé de m'en parler plus, puis il disait que c'était quand même beaucoup de jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes, puis j'étais comme, mon Dieu, t'enlèves mes préjugés, parce que moi aussi, j'avais l'impression que c'était du monde de 50 ans et plus.
Mm-hmm.
Puis ça a l'air que non, c'est vraiment... on est juste pas dans ce milieu-là, je pense.
Ah!
Ouais.
Mais je pense qu'il y a tellement pas vraiment d'endroit où tu peux faire ça, où tu peux échanger avec des gens qui font ça, et donc il faut créer des espaces, ou dans ce cas-ci, des codes, là, pour identifier les personnes qui font partie de ces communautés-là, tu sais. Parce que c'est immense, là. Bon, là, je vais peut-être mélanger des gens. Qui dit club échangiste, truc underground, peut-être que là, il faut trouver des endroits où le faire, tout ça. Ben là, on peut rentrer aussi dans tout ce qui est donjon BDSM.
Ouais.
Pas nécessairement que t'étais genre échangiste et donc que tu pratiques le BDSM.
Ouais, non.
Ou n'importe quelle forme de BDSM. Mais que souvent, les lieux... Je parle vraiment des lieux, environnement, là, où les personnes se rencontrent, ben, t'sais, ils se recoupent.
Ouais. Puis, tu sais, c'est drôle que tu dises que le petit truc de l'ananas, là, je reviens à... Mais ça fait un peu, je connais pas assez mon historique des personnes LGBT, mais il y avait pas comme des signes de dire que t'étais gay ou que t'étais lesbienne quand c'était comme illégal, là. Comme il y avait des trucs physiques que tu mettais ou genre t'avais un béret telle couleur puis ça voulait dire que t'étais comme gay. Puis là, c'était comme, OK, les gars peuvent venir me voir, tu sais. Fait comme, est-ce que tu penses que dans 60 ans, ils auront plus besoin de leur petit ananas pour dire qu'ils sont échangistes.
Peut-être.
Probablement.
J'espère. Soigneuse, là. C'est le fun, là.
Ils vivent sûrement leur best life.
Yo, ouais, là.
Mais dans le couple échangiste, il y a quand même la notion de hiérarchie, encore une fois. T'échanges avec un autre couple, mais ton couple reste le plus important. Là.
Exact, on revient toujours à ça, un peu comme c'est le couple ouvert. Là. C'est comme il y a une hiérarchie,
C'est ça.
Une autre catégorie de relations conjugales, on parlait de polygamie. Là, j'étais comme, oh, play! C'est l'union légale entre un être humain et plusieurs conjoints du sexe opposé.
Exact.
Mm. C'est marqué union légale, mais au Canada, je crois pas que t'as le droit d'être polygame.
Je sais.
Comme c'est légal dans d'autres pays, mais je ne crois pas qu'au Canada, t'as le droit d'être marié à plus d'une personne.
Je suis pas certaine.
Non, okay.
Mais je sais que c'est sur le continent de l'Afrique, là, dans certains pays africains, il est question de polygamie. Je sais aussi que dans la religion des Mormons, ils pratiquent la polygamie beaucoup, et de d'autres cultes, d'ailleurs. Là, mais
polygamie et pédophilie. Mais ça, c'est autre chose.
Oui, ça, c'est autre chose. Mmh. On fera un épisode là-dessus en temps et lieu.
Puis finalement, la dernière catégorie qui était mise ensemble, c'était le polyamour et ou la non-monogamie éthique.
Mmh.
Exact. Là, c'est intéressant, la non-monogamie éthique, parce que tantôt, quand tu lisais la définition de couple ouvert, ben, ça ressemble à de la non-monogamie éthique. Parce que t'es non-monogame en ce sens où tu sors de ton couple monogame. Je sais pas là où la ligne exactement, mais tu sais, comme techniquement, c'est pas vraiment de la monogamie. C'est la monogamie dans le sens où, bon, tu vis ensemble, peut-être que t'es marié avec la personne, puis là, vous sortez extra-conjugal, tu sais.
Mais j'ai vu que le mot non-monogamie, pourquoi on l'utilise encore, c'est parce que, dans le fond, la personne disait, on met le mot non devant monogamie pour dire non-monogamie, mais c'est comme dire un non-véhicule pour parler d'un vélo. C'est comme dans le sens qu'on n'a pas encore mis le terme,
le mot. Okay.
Fait que, je sais pas.
Est-ce que le mot, c'est polyamour, d'abord? Des polyamoureux?
On va rentrer là-dedans.
Ouais, bon. Démêle-nous ça!
La non-monogamie éthique serait comme le grand terme parapluie, et à l'intérieur de celui-là, on retrouve le polyamour et peut-être d'autres configurations. Fait que non-monogamie éthique, moi j'avais juste, tu sais, entretenir plusieurs relations monogames ou non, mais de façon éthique, c'est-à-dire que chaque personne consent à la constellation sur laquelle on s'entend. Là, quand je dis constellation, vous pouvez vraiment penser à des étoiles, là. Genre une petite étoile qui connecte à une autre étoile, qui connecte à une autre étoile, puis chaque étoile, c'est une personne ou un couple. Un couple monogame, c'est juste une ligne avec, tu sais, une étoile à chaque bout. Mais tu sais, si cette personne-là est en relation avec Jimmy, puis Jimmy est en relation avec Natasha, ben là, ça fait un petit V. Puis là, etc. Puis là, tu peux avoir des constellations, là, de genre... C'est une terminologie qui est utilisée beaucoup dans les communautés non-monogames, éthiques et polyamoureuses pour faire un dessin, dans le fond. Des fois, on finit par s'y perdre, hein, parce que ça peut être pété,
c'est...
là, tu sais.
Ouais,
ça peut être...
c'est plein d'étoiles dans un ciel.
C'est ça.
OK.
Bon, fait que le terme parapluie non-monogamie éthique, fait que si vous voyez dans vos profils Tinder, NME ou...
Ben souvent, NM, les gens le mettent en anglais, là.
C'est ça,
Ethical Non-Monogamy.
Exact.
Parce que moi, au début, je pensais que c'était de la musique. EDM. Genre, ah, cool, il écoute de la musique. Comme j'écoute pas vraiment du EDM, tu sais. La personne est comme, non, c'est Ethical Non-Monogamy. Puis j'étais genre,
Ouais, oups. C'est ça. E-N-M.
Regardez sur les profils Tinder quand vous souhaitez.
Ben, en fait, je pense que OkCupid, qu'il y a de plus en plus d'applications de rencontres aussi qui essaient de tenir compte là, des configurations relationnelles qu'on aime. Là,
ouais.
OkCupid plus, là, parce qu'ils sont plus anarchistes en ce sens, là, qu'ils vont être genre toutes les catégories, tiens, on va toutes les nommer, puis bref.
Okay.
Fait, pour revenir au polyamour, le truc avec le polyamour, c'est que c'est important de le différencier de la polygamie, parce que dans le fond, le mot gamme, là, c'est pour dire mariage, tu sais, pour dire okay. union comme officiel, légal, tu sais. Fait que polygamie, c'est vraiment, il y a une histoire de mariage. Polyamour, on n'est pas là-dedans. C'est comme pour définir différents couples amoureux, souvent, hiérarchiques ou pas. Fait qu'il peut avoir un couple primaire, puis là, des couples secondaires, ou ça peut être, tu sais, du polyamour anarchie. Comme le mot anarchie va être utilisé pour dire genre que c'est juste comme...
Il n'y a pas d'hiérarchie, non.
YOLO, là, ouais. Tu sais, là, ouais, ouais, c'est comme tout le monde s'aime, puis peace and love.
Wow.
Donc, être en amour avec plus d'une personne à la fois, ou potentiellement, c'est un mot qui existe depuis 1990. Ouais, c'est une militante qui a sorti ce mot-là. Et depuis, on s'en sert pour définir les personnes qui veulent être dans des relations non monogames, mais qui veulent souligner qu'il y a quand même de l'amour. Tu sais, c'est pas nécessairement juste des fuck friends ou juste des amis avec bénéfices ou tu sais, peu importe.
Mm-hmm.
Donc, lançons-nous dans l'immense bracket du polyamour qui est complètement fascinante, selon moi. Mais en partant d'abord avec un prémisse de base, là, qui est sous-jacent au polyamour et au concept de polyamour, c'est que nous ne sommes pas naturellement monogames, en tant qu'être humain, je veux dire.
Mm.
Plus encore, c'est que les êtres humains, hommes, femmes, autres, là, on est des créatures sexuelles diversifiées et que la sexualité en soi devrait être pensée comme étant composée de possibilités infinies.
Oh my god.
Bon, là, le petit sentiment de panique est normal, parce que...
Je l'ai clairement ressenti.
À vous, hein?
Ouais, t'as pas ça, là, comme... ouais. Là, on est loin de ton « the one », là, de tantôt.
Exactement. Et donc, le polyamour a aussi été inventé pour des personnes qui ont été capables de déconstruire beaucoup de concepts
mm-hmm.
patriarcaux, d'héritage judéo-chrétien. Faut que tu déconstruis bien du stock avant d'être rendu à genre « tout le monde peut s'aimer, puis tout le monde est libre de la sexualité, puis tout ça. » Puis message aussi général, on se souvient que le polyamour est en dessous de la grosse branche de la non-monogamie éthique. Tout ce qu'on va dire pour la suite ne compte pas si tu vis de la violence, en fait.
Oh.
Mmh. Si t'es dans une relation où t'arrives pas à avoir de la communication consentante, transparente, éclairée, si t'es dans une relation de manipulation quelconque là, qui fait violence, ou t'sais, comme qu'il y a une infidélité pis il y a un bris des limites qu'on s'est mis ou des frontières, ben sorry, mais c'est pas éthique.
C'est ça.
Donc, okay. Ouais.
Genre, il y a une des deux personnes qui était pas consentante que t'aies couché ailleurs exact. Sans condom. Fait que c'est pas éthique. T'es pas en polyamour. T'es pas en non-monogamie éthique si un des deux profite de l'autre pour lui dire « Ouais, mais t'sais, on est polyamoureux. » Pis
c'est
tout ça,
ça
t'sais.
Exact.
Ouais.
Ouais. Ou si t'as utilisé de la coercition pour ouvrir ton couple, ben sorry, mais c'est de l'infidélité.
Ce qui va revenir beaucoup, c'est l'éthique de la chose.
Oui.
Te laisse continuer, c'est intéressant.
Ben, exact. La première chose que tu vas vivre si tu décides de être polyamoureux, c'est les préjugés. Que tu discrimines pas tes amoureux, que tout le monde est permis. Ça, c'est faux. Que ta sexualité est amorale. Que c'est un péché. Oui, oui, oui.
On adore les péchés, de toute façon.
Que c'est une pathologie ou une maladie. Fait que ça vient aussi de comment on a perçu la sexualité comme étant, premièrement, elle était mauvaise, tu sais, selon la chrétienté et tout ça. Puis ensuite, c'était une maladie.
Ouais.
On est encore là-dedans des fois. Ou que t'es une femme facile.
Ouais.
Mais c'est que toutes ces personnes-là, ils ont déconstruit des concepts. Puis aussi, je pense qu'il y a un gros morceau d'avoir des besoins qui sont différents de quelque chose qui se fitterait dans une configuration monogame.
Ouais.
C'est ça la base, tu sais, finalement, c'est d'être dans des couples monogames puis de faire « Non, ça répond pas à mes besoins, ça répond pas à ce que je veux, à mes idéaux, à ce que je peux imaginer comme la sexualité. » Il y a des personnes pour qui c'est juste pas suffisant, c'est pas satisfaisant, tu sais, puis heureusement que depuis les années 50, on a déconstruit des affaires sur notre sexualité puis on s'est libéré puis ça, ben, il y a du monde qui ont réussi à se libérer en
titi, tu sais,
ouais, c'est ça. Donc, voici certains mythes sur les personnes polyamoureuses. Que les relations monogames à long terme sont les seules vraies relations. Que l'amour romantique, c'est la seule forme valide d'amour. Que le désir sexuel est une force destructrice ou dangereuse à surveiller, à restreindre, à baliser.
Ah.
Ouais, si t'exploses ça, tu t'en vas voir ailleurs. Que d'aimer quelqu'un, c'est de pouvoir dicter ses comportements. Coucher avec une autre personne devient quelque chose que tu fais à ton partenaire et non pour toi. Dans une relation monogame, c'est un peu ça la perception aussi.
Ouais.
Si mon chum, il couche avec une autre personne, il m'a trompé moi, au lieu de penser qu'il a fait ça pour lui.
Ouais.
Que la jalousie, c'est inévitable et impossible à surmonter. La jalousie, c'est une émotion qui est pas agréable, on s'entend, mais qui peut être tolérable. Puis aussi, ce qui rend une personne jalouse peut être complètement différent d'une autre personne.
Ouais.
Puis bien souvent, les comportements qui nous rendent jaloux-jalouses sont des réactions conditionnées qui peuvent être déconstruites et désapprises. Quand on regarde des séries télé, des Degrassi, des O.C., toutes les petites séries quand on était ado, là, ben je m'excuse, mais quand quelqu'un trompait quelqu'un d'autre, puis qu'on voyait la réaction de la fille, puis qu'on voyait tout ce que ça faisait, puis l'impact sur le cercle d'amis, puis tout ça, ça, c'est des messages qu'on reçoit, tu sais.
Ouais.
Déconstruire ça, c'est possible, là. C'est pas obligé de se passer comme ça.
Mm-hmm.
Gros challenge, là, on s'entend, là. C'est pas pour tout le monde, mais c'est faisable, là, ayant fait moi-même. Les relations à l'extérieur du couple réduisent forcément l'intimité dans le couple. Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est pas toujours vrai. Puis attention, parfois, certaines relations vécues à l'extérieur du couple peuvent au contraire te rendre encore plus amoureuse, admirative de ton ou ta partenaire. Puis ça, c'est fait vécu, là, genre.
Ouais.
Vraiment fascinant. Le mythe aussi qu'avec l'amour, je peux tout surmonter. Ben non, c'est faux. Puis c'est probablement une des premières choses qu'il faut apprendre aussi dans un couple amoureux, poli, amoureux ou pas, là, genre juste en général dans nos relations amoureuses.
Ben, en tant qu'individu, là.
Exact, ça prend du travail, de la négociation, de la communication, des limites. Puis si tu penses que c'est tough de faire ça dans ton couple monogame, oh, t'es pas prête pour être dans une relation polyamoureuse parce que c'est décuplé.
Mm-hmm.
Parce qu'il y a rien de balisé. T'sais, dans une relation monogame, il y a beaucoup de choses qui sont implicites, des non-dits, mais dans la relation polyamoureuse, tout est un peu à définir.
Ouais.
Puis de faire ce travail-là, c'est vraiment exhaustif.
Ouais.
Moi, je pense pas que c'est un mythe en disant ça. Je pense que c'est plus un questionnement pour des gens polyamoureux qui ont plusieurs partenaires. Je me demande où est-ce que tu prends l'énergie puis le temps.
Exact. Mais c'est intéressant parce que tu peux t'imaginer, effectivement, là, il y a des real world limits. Là, tu sais, le temps, il y a juste 24 heures dans une journée, tu sais.
Mm-hmm.
L'énergie, il y a peut-être un certain nombre de relations sexuelles que tu peux avoir par jour ou par semaine selon ton corps. Mm-hmm. Fait que tout ça, c'est aussi à regarder selon tes besoins, selon ton style de vie que tu veux avoir. Tout ça, c'est aussi à négocier, mais dans le fond, le but, c'est juste de tout mettre sur la table.
Mm-hmm.
Le polyamour, c'est ça que ça permet, en fait.
Mm-hmm.
C'est aussi de voir le désir différemment. Tu sais, le désir, on le voit souvent comme « je t'en manque » et donc « je vais aller vers l'autre », mais dans le polyamour, c'est l'inverse. Le désir, j'en ai tellement, ça déborde. Et donc, j'ai besoin de plus d'une personne à qui le donner.
Ah, OK, ouais.
C'est un switch mental cognitif qu'il faut faire, puis c'est pas évident.
Ben, pis c'est drôle parce que toutes les réflexions que t'apportes, c'est quand même des trucs qu'on pourrait mettre en place dans des couples monogames aussi.
Complètement.
En fait, ça devrait être des choses auxquelles couples monogames réfléchissent, mais on le fait pas parce que c'est bien plus simple, encore une fois, pis c'est beaucoup moins épuisant de juste les laisser implicites.
Ouais.
Oui, effectivement. Oui, puis il y a du monde qui, après 20 ans de mariage, ils font « bon, ben, coudonc, on ouvre-tu notre couple? » C'est comme « ben, oui, go for it, genre. »
Ouais.
Mm-hmm. La sexualité est pas finie, là.
Mm.
L'amour, c'est pas fini.
Mm.
Ça fait un lien avec peut-être les croyances sur lesquelles s'introduire au polyamour. Fait que repenser la sexualité. L'énergie érotique est partout, il y a du sexe et de la sexualité partout. Sortir le sexe et les relations sexuelles et la sexualité de leur petite boîte étroite.
Oh.
Fait que vraiment, le genre, si tu veux vraiment y aller, là, t'sais, là, think big. Les croyances comme privation versus épanouissement, tu sais, dans notre culture, on place beaucoup d'importance sur le déni, la privation, comme on se donne du plaisir seulement si on le mérite. Mais là, dans une méritocratie, ça complique ou ça brouille aussi notre relation au sexe puis au plaisir, tu sais, comme « ah ben j'ai une grosse journée au travail, tu sais, je mérite de donner du plaisir ». Non, man, tu mérites de donner du plaisir, peu importe, là!
Ah, c'est vrai!
T'as pas besoin d'une raison pour aimer le sexe. Fait que parfois, on essaie de convaincre les autres que le sexe est bon puis qu'il y a plein de bénéfices. Pourquoi si on pousse plus loin puis on pense qu'en fait, t'as pas besoin d'une raison ou d'une cause pour rationaliser le sexe ou le plaisir sexuel? Le plaisir sexuel, c'est bon puis c'est tout, là, tu sais.
Mm-hmm.
Tu peux juste en avoir puis en avoir en quantité. Ouais. C'est pas amoral, tout ça, là, c'est genre... Si on s'enlève ça, c'est genre...
Ouais.
Men, fourrons.
Conclusion!
Il n'y a pas de tendre moitié dans le polyamour. Donc là, on revient sur l'histoire de The One, tu sais, comme t'es une entité à part entière, t'es un individu à part entière, puis les autres aussi. T'as pas besoin d'un partner de vie pour que ta vie soit légitime et complète.
Puis que toi-même, tu sois légitime et complète.
Exact. Puis finalement, c'est l'économie de la famine, un peu comme l'idée que l'amour, c'est une ressource finie, que l'amour vient en quantité limitée.
Ouais.
Parce que ça, c'est une question que je recevais en tant que personne qui a été dans une relation polyamoureuse dans le passé, tu sais, comme, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, tu donnes 50% à ton chum, puis là, tu restes 50% pour ton autre partenaire, puis c'est comme non. C'est deux personnes complètement différentes, tu sais, je donne 100% à mon chum, puis je donne un autre 100% à l'autre personne, tu sais.
Ouais.
Mm-hmm.
Puis depuis quand est-ce qu'on quantifie l'amour? Ah, oh, il y a une mère qui a 4 enfants, ben, elle donne 25% à chacun. Ouais, non, jamais! L'amour, c'est pas une ressource finie.
Okay. Ça, c'est un bon point.
Je comprends que l'amour, c'est pas une ressource finie, mais comme on disait tantôt, ton énergie puis ton temps, par exemple,
oui,
quand même.
Ça, c'est des ressources finies.
Ouais.
Fait que c'est intéressant. Mais pas l'amour, par exemple.
Mm-hmm. OK.
Maintenant qu'on vous a exposé les paradigmes radicalement différents qui sous-tendent le polyamour, on arrive aux exceptions, ou du moins les choses à surveiller ou à réfléchir si t'es pour te lancer dans la grande aventure du polyamour. Premièrement, nos besoins puis nos limites. Faut s'écouter, voir ce qui est possible pour nous, ce qu'on veut ou non. C'est énormément de travail sur toi de déconstruire toutes ces croyances-là et aussi de faire face à tous les messages qui nous disent le contraire dans la société.
C'est ça.
Ouais.
J'étais dans une relation polyamoureuse, puis il y avait quelqu'un dans ma famille qui se mariait. Juste d'être dans tout ce mariage-là puis cette ambiance-là, c'était de réaliser aussi que peut-être moi, j'aurais peut-être jamais ce moment-là, tu sais, de mariage, parce que si tu déconstruis tout ça, tu vas pas aller après ça te marier, en tout cas.
Ouais, non.
Ouais.
Tes intentions et tes responsabilités. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir ce style de vie-là? C'est quoi tes intentions? T'sais, comment tu peux t'assurer de demeurer conséquent ou conséquente, clair dans tes comportements, tes besoins, tes limites? Parce que le but, c'est d'être une ethical slut, pas être une unethical.
Mmh.
T'sais, comme, il faut demeurer consciencieuse de ça quand on rentre dans... Parce que c'est compliqué, t'sais.
Puis il y a d'autres personnes aussi...
Ben, c'est ça.
...qui rentrent en ligne de jeu. Là, je comprends comme tous tes besoins puis ton amour à donner, mais tu deals avec une ou plusieurs personnes.
Complètement. Faut qu'il y ait constamment de la communication sur les besoins puis les limites de chacun, puis si tu consens, puis si tu... Puis c'est constamment... C'est beaucoup de travail, c'est ça. C'est pas genre...
Puis de négociation.
Mon couple, c'est YOLO, là. C'est vraiment pas ça, là.
Tes besoins puis tes limites, ben peut-être que ça rentre pas non plus dans les besoins puis les limites de un de tes partenaires, là. Fait que comment tu fais pour conjuguer tout ça? C'est des questions à se poser.
Je pense que ça doit être de l'essai-erreur aussi. C'est bien beau de réfléchir à tes limites, mais peut-être que finalement, quand un ou une de tes partenaires franchit telle limite, t'es comme, oh non, finalement, c'est beaucoup avant d'arriver à ça que j'aurais dû mettre ma limite parce que ça, ça m'a fait mal ou ça. C'est...
Exact.
Ah, il y a la théorie puis il y a la pratique aussi.
Ouais, c'est ça.
Comme je suis d'accord avec tout ce que tu dis, théoriquement, ça fait tout son sens, mais je sais profondément que je serais pas capable. Mm. Que je suis genre une bonne monogame, vanille, je suis possessive.
Ouais, la possessivité, on en a pas parlé, mais ça fait partie de la gimmick aussi.
Jalousie puis tout ça, ce serait un travail d'une vie.
Ouais.
D'une vie.
Pas d'autre travail à faire.
C'est ça.
Exact. Puis finalement, là, je sais que je l'ai déjà nommé, mais tu sais, la violence conjugale ou domestique, fait que tout ce que je viens de nommer, dans le fond, c'est impossible à concevoir sans faire de dommages si dans une relation où il y a de la violence, peu importe la forme.
Mm-hmm.
C'est pas possible. Donc voilà!
Très intéressant.
Ça nous éclaire un peu plus. Merci Val pour cet excellent aparté sur le polyamour. Je pense qu'on arriverait aux pistes de solutions, recommandations.
Ouais, qu'est-ce qu'on fait?
On veut conclure cet épisode parce que ça fait 1h15 qu'on parle. Je pense que la première chose à se dire, c'est juste qu'il n'y a pas une configuration mieux que les autres.
Mm-hmm.
C'est ce que toi tu recherches, c'est quoi tes limites puis tes besoins. Puis dans tout ce qu'on a dit, c'est de pas hiérarchiser les types de relations.
Ouais.
De façon morale, genre.
Ouais.
Fait qu'il y a pas une configuration mieux que les autres. Puis je pense que c'est important de se dire que t'as le droit de changer d'idée, puis t'as le droit de changer de configuration, puis te dire comme hey, you know what, ça c'est pas pour moi, ou hey, je vais essayer ça, puis te dire hey, finalement ben c'est ça qui fit pour moi.
Ben oui.
T'es pas obligé de rentrer dans un seul chemin, t'es pas obligé d'habiter avec ton partenaire.
Puis je pense que ça aiderait aussi de savoir que c'est pas parce que mettons tu veux tenter une relation polyamoureuse que tu vas suivre ce sentier là toute ta vie.
Exact.
Tu sais, ça peut changer, mais il n'y a rien à perdre à l'essayer. Il y a certaines personnes qui osent pas se lancer dans un autre type de configuration amoureuse juste parce que, ben là, si je me lance, faut que je fasse ça pour le reste de mes jours. Puis c'est comme, ben, non.
Non.
Et tout change.
Et c'est extrêmement riche d'avoir un parcours diversifié. Tu sais, moi, j'ai appris des choses sur moi, là, dans mes relations passées, polyamoureuses ou pas, là. C'est aussi de penser l'amour comme étant quelque chose qui est enrichissant. Oui. Si t'as envie de te lancer, ben voici quelques questions que tu peux te poser à toi-même ou à ton ou ta partenaire. Premièrement, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime moins dans ma relation actuelle? Qu'est-ce que je veux? Mais vraiment là, qu'est-ce que je veux? dans un monde idéal, là, si t'avais une baguette magique, tu pouvais avoir n'importe quoi comme relation, ça ressemblerait à quoi? Qui serait là? Tu ferais quoi avec qui? Puis finalement, quel comportement définisse une infidélité? Parce que ça, c'est vraiment, là, peu importe la configuration relationnelle que tu as, là, question à te poser et à poser à ta partenaire.
Puis, il y a beaucoup d'articles qui commencent à sortir dans des sources crédibles. Là. On peut penser à Club Sexu. Oui. Ils ont aussi un podcast. Ils ont des articles en ligne là, sur leur site Internet à propos de ça. J'ai trouvé la chaîne YouTube de Martin Blais, qui est un professeur à l'UQAM. Mm. Et ils font des webinaires pour vulgariser leurs articles scientifiques. Donc, c'est vraiment accessible à tous. Là.
Ah, c'est cool.
Ouais, ça, c'était vraiment intéressant.
Finalement, je dirais consulter un ou une sexologue pour se renseigner, pour s'aider à réfléchir. Si jamais soit tu envisages changer de configuration relationnelle et que tu as besoin d'être accompagné, ou que tu es dans une configuration relationnelle qui est différente de la monogamie et que tu aurais besoin de te sentir accompagné là-dedans. Finalement, j'ai des livres parce que hein, c'est pas pour rien que j'ai passé 45 minutes dans ce podcast à parler de polyamour. Sex at Dawn, c'est un livre sur la sexualité basé sur la psychologie évolutive. Donc, c'est un peu comme, les Néandertals puis les hommes de Cro-Magnon vivaient leur sexualité de telle façon, puis on est connecté aux chimpanzés puis aux bonobos, et donc c'est pour ça que on est tellement infidèles dans nos relations monogames, etc. Donc, ça l'ouvre un peu la perspective en anthropologie, là, par rapport au polyamour ou aux couples non monogames. The Chemistry Between Us, qui parle de la science de l'amour, comme vraiment comme plus les molécules, tu sais, comment ça fonctionne, comment on tombe en amour, pourquoi on va ailleurs, pourquoi on est attiré physiquement à telle ou telle personne, mais comme biologiquement, tu sais, dans notre cerveau, qu'est-ce qui se passe? Mm. The Ethical Slut, qui en est à comme sa troisième édition, là, ce livre-là existe depuis 15 ans, là, puis c'est dans le fond un guide to polyamory, open relationships and other adventures. Il y a aussi le livre More Than Two, a practical guide to ethical polyamory. Et finalement, il y a le Relationship Bill of Rights. Fait que ça, c'est intéressant. C'est par les auteurs du livre More Than Two. Puis c'est pour s'assurer de tes droits en tant que partenaire dans une relation polyamoureuse ou pour s'assurer que ta relation demeure éthique. Parce que des fois, on a l'impression que les lignes sont brouillées parce qu'on s'est permis telle ou telle chose, mais que t'as des droits, t'as quand même le droit de dire « je suis inconfortable avec telle ou telle chose », même si t'es dans une relation polyamoureuse puis vous aviez défini X, Y, Z.
C'est important.
Fait qu'ils commencent à avoir des guidelines.
Oui, oui, puis il y a même des checklists. Comme tu sais, tantôt, t'as nommé des trucs, mais ça peut être aussi genre pas de cunis avec tes partenaires. Tu sais, ça peut être n'importe quoi. Il y a vraiment des listes qui commencent à sortir. Donc voilà.
Mais Martin Blais, qui fait des recherches sur les configurations amoureuses, dans un de ses textes, il termine comme ça, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Il dit les phrases suivantes. « Une constante ne se dément jamais d'une étude à l'autre. L'importance de l'amour. Ce qui a changé, c'est ce qu'on attend de cet amour. Les critères et les exigences sont plus élevés qu'avant. Il faut donc plus de temps avant de reconnaître une relation comme amoureuse. »
Wow!
Pour conclure, l'épisode d'aujourd'hui se voulait exempt de jugements moraux en termes de relations et d'idéal de relations, dans le sens que on veut pas faire de hiérarchie entre ce qui est plus acceptable et moins acceptable en termes de configuration relationnelle, mais plutôt d'ouvrir l'horizon sur ce qui existe. Donc, on vous invite à réfléchir à vos valeurs, à vos limites, ce que vous recherchez dans votre vie relationnelle, et vous rappeler qu'il n'y a pas de one size fits all pour ce qui est de l'amour. L'important, c'est d'être fidèle et authentique à vous-même, parce que, ben, c'est toi la personne la plus importante de ta vie.
Oh! Oh! Oh my God, c'est tellement bon! Bravo!
Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode des Sexes Maîtresses. On espère avoir stimulé vos réflexions et inspiré vos prochaines conversations avec vos proches.
Suivez-nous, partagez nos épisodes sur vos réseaux sociaux et surtout, faites-nous plaisir et écrivez-nous vos questions, vos impressions et vos suggestions.
Les Sexes Maîtresses vous souhaitent une bonne semaine. Bisous, bye!